Oui, je crois que vous, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonjour à tous. Pour ce 29e numéro de L'écume des pages, nous allons rencontrer un poète qui s'adresse bien à la jeunesse que nous représentons. Pressenti depuis de nombreuses années pour obtenir le prix Nobel de littérature, nous vous proposons aujourd'hui d'entendre Ali Hamed Saïd Esber, dit Adonis. Raph est parti à la rencontre de ce poète indomptable, tout comme la poésie qu'il courroie, à travers le parcours qu'il nous propose dans cette émission. Échanger avec le poète, le questionner, était une question nécessaire et urgente pour lui. Comme beaucoup d'intellectuels, tels que Olivier Py, entre autres, Adonis est persuadé que l'art et la culture peuvent permettre une révolution des esprits et un renouveau de la politique. Adonis est un poète et intellectuel syrien, né en 1930, exilé depuis sa prime jeunesse, et installé à Paris depuis les années 80. C'est un poète qui donne forme à la matière historique du monde, à travers l'expression d'une voix lyrique, parfois désespérée, mais qui est souvent révoltée face à l'horreur et à la violence universelle. Il nous parle de l'essence de la poésie à ne pouvoir déceler l'inconnu et à n'avoir pas la fonction de porter de message. À quoi sert-elle donc ? Le poète, comme il le dit lui-même dans cet entretien, signe les abîmes de l'infini pour mieux voir notre condition humaine. Le poète s'insurge, il n'y a personne d'autre que celui qui parle du fond de l'abîme, soit capable d'aimer autant l'humanité, et de savoir, harmonieusement, se saisir à la fois de la lucidité et de l'espérance pour en dépasser l'antinomie. C'est par là qu'Adonis nous dira que la politique actuelle dans le monde n'est qu'une maladie de l'être humain. Vous pourrez entendre également, au cours de cet entretien, des lectures, des morceaux choisis, lus par moi-même et par Marie Blanc, qui s'occupe de la régie. Vous pourrez retrouver en lien toutes les références bibliographiques pour les lectures et pour les passages cités au cours de l'entretien. Bonne écoute à tous.
Bonjour Adonis.
Bonjour.
Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un poète assez engagé pour combattre le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc vous êtes évidemment un classique contemporain, comme on pourrait dire, publié chez Seuil, chez Gallimard, chez Mercure de France. Et tant d'autres. Donc nous allons faire notre entretien sur quelques œuvres seulement, celles que j'ai lues, donc à savoir les trois livres d'Al-Kitab, parus au Seuil, Les Chants de Millard de Damasken, parus en NRF, et Commencement du corps, fin de l'océan, ainsi que Jérusalem, par Jérusalem qui est paru au Mercure de France en ce début de février 2016, mais que vous aviez écrit bien avant, en attendant la traduction. Donc j'aurais une première question à vous poser par rapport au corps. Vous dites dans Le Regard d'Orphée, qui est une série d'entretiens, que s'il y a un fini infini, c'est bien le corps. Et pour vous, la poésie semble néanmoins vous permettre de prendre corps. Le poème même, on pourrait dire, respire avec votre corps dans votre voix. Une voix qui dit dans le tome 3 d'Al-Kitab, page 94, et c'est un poème que j'aime beaucoup, enfin un moment que j'aime beaucoup. « Alors j'avouerai, je suis né avec deux corps, un qui me fait souffrir et l'autre que je torture. De la sorte, je théâtralise mon corps et invente la poésie pour ses péchés. Un salut pour les rebelles de la poésie, un salut pour celui qui prêche la transgression. » Donc je voulais savoir, voilà, ce corps, est-ce que c'est une manière pour vous de faire une poésie vraiment proche des préoccupations des hommes et pas trop élevée dans les idées?
Merci pour cette question. D'abord, c'était pour dire non au monothéisme. Parce que le monothéisme, la vision monothéiste du monde et de l'être humain et des choses est une sorte de déformation Et je crois que le corps, dans cette vision, est très trop marginalisé et trop mépris aussi. Et ce qui n'est pas digne de l'être humain qui est le centre du monde. Donc c'est pour réhabiliter d'abord contre la vision monothéiste. Et deuxièmement, pour dire ce que je crois, que la matérialité du monde, de l'être humain, c'est l'essentiel. Et il faut donc écrire à partir de cette matérialité. Et pour dire s'il y a un esprit, l'esprit, c'est le corps. Il n'y a pas quelque chose de vivant, de vrai, en dehors du corps humain. Il n'y a rien. C'est le corps qui est l'essentiel. Donc, au lieu de parler d'une chose de croyance, disons, il faut parler de ce qui est vu, de ce qui est senti, de ce qui existe, et à travers lui, nous existons, nous, les êtres humains.
Mais justement, ce corps de poète s'irradie sans cesse à la vision du monde, ou parfois même se teint de macabre. Et vous écrivez dans Al-Kitab 1 un poème, enfin une phrase aussi que j'aime beaucoup, qui serait presque la définition de votre poésie. Vous dites donc dans Al-Kitab 1 l'univers et mon corps sont l'union d'un rêve, d'un poème. Est-ce pour cette raison que nous sommes au sommet de l'étreinte séparation? Et donc je me demandais si votre poésie, justement, cette étreinte séparation, c'était pas finalement une poésie qui était condamnée à vivre séparée du monde, un corps séparé du monde.
Oui, séparé du monde, je ne sais pas, le monde qui règne, ou bien le monde en tant que théorie, ou bien en tant quoi, en tant de que vie. Non, je dirais que notre culture régnante est une culture fondée sur la vision du monothéisme. Et je suis radicalement, catégoriquement, contre la vision monothéiste du monde. Donc j'essaye de faire une autre chose en dehors de ce monde monothéiste. Comment est-ce que j'ai réussi ça, je ne sais pas. Mais je suis toujours dans cette lignée qui fait, qui rejette absolument la vision monothéiste, sur tous les plans. Et je ne crois pas tout ce qui est, tous les livres sacré ou dit sacré, ça ne m'intéresse pas absolument, sauf il y a quelque chose de poétique dans ces livres, notamment dans la Bible, et peu de choses dans le Coran et les autres livres, ça pourrait m'intéresser en tant que texte littéraire, mais ce qu'on appelle révélation divine, ça c'est une invention humaine, mais c'est pas mal comme invention humaine.
Nous vous proposons à présent une lecture de Al-Kitab 3. La feuille se divise visuellement en trois parties. Une première partie qui sera lue par Marie et qui fait référence à l'histoire coranique et islamique. Une seconde partie qui sera lue par Héloïse et qui fait référence précisément à la poésie d'Al-Mutanabbi, et une troisième partie qui sera lue par moi-même et qui fait référence au sentiment du poète Adonis qui regarde et l'histoire et le poète Al-Mutanabbi.
La mémoire, 289 heures. On transporta Al-Kirmart à Bagdad sur le dos d'un éléphant.
J'écoute, dans les ruelles, entre les boutiques, sur les routes, devant les mosquées. J'imagine ma tête, un oiseau légendaire qui hale ses ailes dans une forêt de pierre et trace ses légendes avec la poussière des gens. Derrière ces minarets, un cri couvre l'horizon. Les villes sont séquestrées, leurs plaies saignent, leurs lampes sont blêmes, et l'enfance, un chant à journée.
Langue, corps vivant. La terre sommeille sur ses épaules, et l'invisible, un livre entre ses mains.
100 coups de fouet à Chama. On coupa ses mains et ses pieds. Il fut brûlé et sa tête tranchée. Joyeux, les gens remerciaient le ciel. La parole ne parvient pas à dire comment elle mourut, comme si son déchirement était une prière.
Je chemine avec le Nil, lui prends parfois la main. Nous discutons, et je compatis à ses chagrins. Deux épaules au-dessus de nous, des doigts tressent la chevelure de l'horizon qui s'étend, amour, sur la poitrine de Khéops. La pyramide de l'invisible s'agenouille sur une poignée de poussière. Et je vois, ne vois, aucune trace d'un prophète.
J'ai écouté un laurier prier. Le Nil était imam, et le soleil appelle à la prière.
Fut emprisonné tout individu désigné comme Kirmat. On commença d'abord par les notables, on brisa chacun de leurs membres. Ils furent tous décapités.
Un silence autour des rivages du Nil, et le papyrus prépare une fête. De même qu'Isis, les pyramides seront présentes. On dit, le Nil lira la poésie, afin d'enlacer Khéops, une étoile fuit le trône de la nuit.
Les étoiles, incessamment, deviennent ville et lit d'amour.
Mettez-le sur le ventre. Commencez par sa main droite, tranchez-la. Coupez-lui ensuite les pieds, puis la main gauche et après le pied gauche. Tranchez-lui la tête et suspendez-le.
Un mendiant vient à l'aube dans la robe d'une femme et le soir dans l'habit d'un amant. Il nous raconte. Hier, derrière la mosquée, Satan me donna un livre à lire pendant le mois du jeûne. Il dit qu'il le vit sur le lit d'une femme dont le temps était voué au seul sommeil.
C'est l'instant du doute et du calembour. L'instant de l'âme est-il déserté ? Implore la cithare de ce temps de commencer la chanson.
292 heures, 293 heures. Ils étaient quelques amis, ils furent tués à Bagdad. Ce fut la fin d'une époque. Al-Qasim Himd... Pardon. Al-Qasim Himd Ubaidala, le sanguinaire, mourut. Les gens étaient ravis. Le poète dit « Nous nous enivrâmes le soir de la mort du vizir, nous continuerons à trinquer, que ses os ne soient guère sacrés et que son héritier ne soit point béni. »
Une maison, maison de l'éléphant. La voyant, tu te souviens de l'année de l'éléphant et tu te souviens de Sigil. Je marche autour de la maison, j'entends des voix. Cependant, je n'aperçois aucune bouche. La voix de ces gens s'élève-t-elle des entrailles du Nil ?
Le temps, du sang qui gicle, et la ville, un marécage. Pour quelle raison baisserais-je la nuque devant le califat ? Pourquoi l'avilissement ?
294 heures. Après l'assassinat de ses deux fils, il déclara la guerre. Ils le tuèrent et fendirent, paraît-il, ses entrailles.
L'imagination et ses preuves. Les tombes, l'ombre des palmiers, les tourtereaux, l'entrevue avec le Nil, Isis, la nuit de la perte dans l'astre du poème. Serait-ce la langue d'un retour imminent vers Kaoula la lointaine ?
Si j'extirpais mon âme au temps, saurais-je ce qu'est la patrie ? Comment et quand ?
295 heures. On captura Al-Muqtafi. Des commandants et des juges optèrent pour la destitution de son héritier, Al-Muqtadir, afin d'introniser un calife plus digne. On l'interrogea, il répondit, à une condition, ni guerre, ni sang.
Un autre Nil, l'horizon qui revêt le Nil. J'épelle ses traces, j'épelle ses traits, je suis sa trace. Le soleil lui soufflait son halo, et mon visage était ravi par son visage. Chaque nuit, il achemine les étoiles vers sa maison. C'est ce qu'un papyrus murmurait.
Souvent, sur le Nil, je rencontrais mon trépas. Je m'en souviens, il avait un éterlène aspect enfantin.
Ils lui firent allégeance, ils lui attribuèrent un nouveau nom. Son règne ne dura pas longtemps, il fut destitué. On tua tous ceux qui lui firent allégeance, et ils remirent Al-Muqtadir sur le trône.
Précieuse est l'éternité. Toutefois, En ces instants amers, je m'interroge au fond de moi. Pourquoi je n'apprécie que le temps éphémère? Et pourquoi je n'intronise comme lumière régnante sur la terre que l'angoisse du poète?
Comment la gazelle de ses yeux égara-t-elle le chemin? Le voici étreignant un palmier qui vacille ivre et qui nous confie son amour.
Et justement, il y a dans vos poèmes la question de l'errance, et notamment dans Al-Kitab aussi, question de l'errance qui traduit aussi le parcours d'Al-Mutanabi, est assez importante, puisque dans votre approche, j'ai lu dans un cours au Collège de France que vous aviez donné dans l'introduction à la poétique arabe, que vous disiez que la poésie ne prend son sens véritable qu'à travers ce qui l'a précédé, le passé, et ce qui sera le futur, le passé étant pour le lecteur la patrie des formes reçues, le présent, lui, sera patrie de l'errance. Donc je voulais savoir, retraduire le parcours d'Al-Mutanabi, peut-être à la lumière de votre propre parcours, qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Au sein de la tradition littéraire arabe, c'était une révolution pour moi sur tous les plans, et c'était le premier poète qui a donné à la politique un sens poétique et un sens éthique aussi. Donc il avait créé un monde poétique où la politique et l'éthique font partie de ce monde, et c'était contre la conception du Coran concernant surtout la poésie, parce que le Coran a rejeté la poésie sous prétexte que la poésie ne peut pas dire la vérité, et c'est la religion à elle seule qui pourrait dire la vérité. Et c'est pourquoi il a rejeté la poésie. Et à mon sens, ce qui dit vraiment ou pourrait dire ce qu'on appelle vérité, s'il y en a une vérité, c'est toujours à la recherche. On est à la recherche de la vérité. Si on peut arriver à ce qu'on appelle vérité, ce n'est pas par la révélation, ce n'est pas par la religion, c'est au contraire par la poésie. Ça, Al-Mutanabbi incarnait tout ça au sein de la tradition poétique arabe. Et il faisait partie de cette extraordinaire vision poétique qui était radicalement et essentiellement anti-religieuse. Parce que la religion représente la réponse définitive, tandis que la poésie représente le questionnement perpétuel. Et il n'y a pas de entre les deux. Et c'est pourquoi peut-être, à la différence de toutes les traditions à ma connaissance, qu'on ne peut pas voir dans notre tradition poétique un seul poète qu'on puisse dire de lui qu'il était grand poète et un croyant, pratiquant. On peut dire par exemple d'un Claudel ici en France, par exemple, ou bien d'un Mario Luzi en Italie. Jamais dans l'histoire de la poésie arabe, il n'y avait pas quelqu'un comme ça. Donc, ce qu'on a vraiment pour participer à donner une autre vision au monde en dehors du monothéisme, pour les Arabes, pour moi, c'est vraiment la poésie, et c'est le mysticisme aussi. Le mysticisme qui était une sorte de surréalisme, mais en dehors de toute vision religieuse traditionnelle ou officielle.
Et du coup, écrire votre poésie, c'est par-dessus celle d'Al-Mutanapi, en tout cas, dans la disposition des Al-Kitab, le lecteur pourra s'en rendre compte.
C'est pourquoi j'ai pris le Trabi comme une sorte de symbole et un guide, comme chez Dante, Dante, il a pris un guide aussi, lui aussi, mais il a voyagé dans l'au-delà. Moi, j'ai voyagé dans l'ici-bas, dans l'histoire et dans la culture, et dans les guerres, et dans ce qu'a fait l'être humain, pas ce qu'a fait Dieu. Dieu, à la limite, pour moi, Sylviana, c'est une invention humaine, et ça a répondu à beaucoup de problèmes à l'époque, mais actuellement, non. Il faut dépasser cette vision. Et les poètes arabes l'ont dépassé.
Et justement, vous parlez de la force d'Al-Mutanabi, qui est presque une poésie pré-islam, en fait, pré-islamique au sens religieux du Coran. Et voilà. Moi, je trouve que...
Il a noué avec la poésie pré-islamique, parce qu'il y a eu une rupture avec l'islam, avec cette poésie, cette grande poésie, parce qu'elle a été rejetée par l'islam, mais les poètes ont renoué avec l'esprit, pas avec les formes, avec l'esprit de cette poésie pré-islamique. Et c'était une grande poésie.
Dans ce parcours que vous tracez, que vous affirmez aussi le berceau de la langue arabe, finalement, ces sortes de symboles qu'on voit apparaître, ces lettres, c'est presque ce que je pourrais appeler un alphabet du désir, quelque chose de cet ordre-là, qui montrerait, comme vous le dites dans un de vos recueils, un lexique de nos entrailles. Et ça, je trouve ça très beau comme expression. Est-ce que tout ça, c'est aussi un moyen pour vous dépasser le monothéisme, de redonner un sens à l'identité arabe et à sa culture?
Absolument, c'était tout à fait ça. Et n'oublions pas que Dieu lui-même a parlé cette langue païenne. Il a exprimé, il a dit sa révélation, ou ce qu'il pensait Dieu à travers... par la langue arabe. Il a choisi la langue arabe. Il fallait... voilà le côté contradiction positif et négatif, parce que si Dieu lui-même, qui était contre, selon la révélation, contre le contenu de la langue arabe, contre ce qu'elle a exprimé avant lui, mais il a choisi cette langue elle-même de parler aussi, c'est-à-dire un poète dans la langue des poètes, un poète contre la langue, mais il a essayé de donner quelque chose à... Donc c'est une langue, c'est l'essence même, je crois, que de l'être arabe. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas, nous les Arabes, comme tradition, que on a seulement la poésie et après la religion. Mais la religion n'est pas une tradition, n'est pas tellement riche. C'est une croyance, ça donne c'est psychologique plutôt. C'est pas intellectuel, c'est pas du domaine de la création, du domaine du dépassement, de la transgression, du renouvellement. Non. Une fois, c'est une réponse une fois pour toutes. Donc, ça pose beaucoup de problèmes sur la question de l'identité culturelle chez les Arabes, l'identité humaine. Ça pose beaucoup de problèmes. C'est pourquoi les Arabes sont toujours mal connus et méconnus. Il y a beaucoup de simplifications. Surtout, les orientalistes ont simplifié beaucoup de choses pour je ne sais pas. Donc, moi je considère que les Arabes jusqu'à maintenant ne sont pas connus. Ils sont sous-analysés, comme disait Jacques Berck. Sous-analysés, ils sont jusqu'à maintenant sous-analysés. Donc, tout ce qu'on lit sur l'islam, tout ce qu'on dit dans les médias ici, on ne comprend pas l'islam, on ne comprend pas les Arabes.
Et donc il y a une carte de liberté du coup dans votre œuvre pour les Arabes eux-mêmes?
Ah bon.
Ou pour le monde en général?
vous dites. C'est vous qui dites ça. Hein.
Le poète. L'époque naquit dans un cadavre. Cendre.
Je réveillerai de son sommeil Orphée. As-tu appris le secret de la descente sur les marches de l'enfer? Le soleil ala ses pans autour de sa cithare chantante. Les collines sont des miroirs où s'agitent les désirs des arbres. Et les étoiles, des femmes qui examinent leur corps et fendent la robe de la lune. Le pollen interroge le vent de ses désirs. Comment concéder mes semences à un temps dont le livre des prophéties dit « Il ne fut précédé par aucun assassin comme lui. »
Cendre.
Toutefois, que dira à la nuit de la nature la nuit des humains? Je n'accrédite que les vents qui revêtent la robe de la poussière. Et comment? Jamais je ne fus un satellite. Jamais ne le serai. Mon corps est vaisseau qui flotte, et son commandant, la folie.
Cendre.
Toutefois, quelle est cette magie qui tient la terre par le col? Il se peut que les étoiles deviennent bientôt des chambres, des lits d'amour, et des rues qui partent et viennent dans toute clarté.
Les cendres, un livre, le livre, cendre.
Non pas le livre, cendre, mais la fougue qui sourd des ténèbres du corps. Non pas les cendres, livre, mais l'infini de l'amour. La route sans drapeau et les vents qui partent et reviennent dans le souffle de l'éternité.
Non pas le livre, cendre.
Écris, ô rébellion, le corps de la chanson. Lis, l'univers est ma voix. Toutefois, les chemins vers lui sont des villes closes. Lis. Aujourd'hui, les signes de notre amour traversent les sourates des questions. Lis. Viens ici, ô orbite, ô amant.
Le livre, cendre.
Je m'enliserai jusqu'à toucher ce qui échappe à mon toucher. Ce lointain rebelle non exprimé par les cendres. Je fraterniserai avec la lumière, non pas avec le ciel ou avec la terre, et sympathiserai avec ce qui s'épiphanise pour accompagner son voyage, disant à mes rêves. Précédez-moi, partez avant vers votre secret, réjouissez-moi de ses splendeurs. Mon temps est perplexité, et mon lieu est le nulle part. Ô errance, je te remercie. Tu es le secret de la route et le commencement de la vie. Je ne dis pas, la vérité est ma demeure, pas plus que je ne dis, l'égarement est mon chemin. Ce sont des paroles qui gémissent dans le berceau, des paroles qui furent empoignées, suppliciées, séparées de leurs désirs, éloignées de leur orbite. Aurions-nous de nouveau une parole, non pas un dard de menace, plutôt un océan généreux sans rivage.
Les cendres, livre.
Comment ? Le poème pourrait-il perdre le poète qui le chante et le glorifie ? De même que l'amour, la poésie n'obéit à aucun canon. De même que l'amour, la poésie boit l'eau de la vie, des sources enfouies dans les plis des corps. Ah ! Qu'il s'approche, qu'il vienne, que me soit accordée la force. Les bracelets des étoiles tintent, et les vents des semences sont en exil. Ainsi, je susurrai à la nuit ce que je ne dis point à autrui, confiant ma tête au tronc d'un olivier. Cendre, généreuse, la voûte céleste prend leur mantille pour en couvrir les pieds. Regardez, elle coiffe la chevelure de l'azur et assoit en son sein notre demeure.
Cendre.
Toutefois, je n'écris pas. Ouvre plutôt la blessure dans les ténèbres du cygne. Je n'écris pas. Apprends plutôt à boire le monde jusqu'à la lie.
Cendre. Toutefois, je sens à présent que j'ai besoin de chanter. Mon corps est une rose, parfum est mon esprit. Paris, Berlin, 2001.
Vous avez parlé de questionnement tout à l'heure, et justement, je voulais vous parler de cette idée que votre poésie pourrait être en perpétuel questionnement et d'incertitude. Dans Jérusalem, votre dernier recueil par le Mercure de France, vous avez une phrase qui est assez étonnante. Vous écrivez, alors bien sûr c'est traduit, hein, c'est Aliem Hassen qui traduit Jérusalem, vous écrivez « Je demeurerai ami avec toutes les questions et je ne conclurai pas de trêve avec les réponses. » Et moi je voulais savoir, voilà, justement pour revenir sur cette idée de liberté, est-ce que c'est précisément être toujours en questionnement et ne jamais être en guerre avec les réponses finalement? Est-ce que ce n'est pas finalement une manière d'écrire d'écrire la liberté et la libération, justement.
Absolument. L'essence de l'être humain, c'est la liberté. Un être humain sans liberté, ça n'existe pas. Ça devient au niveau des choses. Donc, l'homme, c'est la liberté. Pas seulement la liberté intellectuelle, pas seulement la liberté du corps, la liberté tout entière, entièrement. Et voilà, Jérusalem, pour faire pour montrer cette hypocrisie monothéiste, si vraiment il y a un seul Dieu pour les trois monothéismes, et si les prophètes sont les prophètes, comme dit l'islam, il n'y a pas de différence entre Mohammed et Moïse. Tous les prophètes sont des frères, ok. Et ils sont aussi, ils disent qu'un seul Dieu. Si c'est vrai, comme croyance, comme révélation, voilà la ville de Jérusalem qui était sacrée, qui juste sacrée de trois monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si ce qu'ils disent est vrai, humainement parlant, cette ville doit être la plus belle ville du monde. Alors, pratiquement, c'est la ville la plus sauvage du monde. Donc, qu'est-ce que c'est ce monothéisme? Et un voulait, dans un aspect comme ça, montrer l'hypocrisie dans ces religions monothéistes. Que voilà, que comment vous dites une chose et vous vivez et vous pratiquez une autre chose. Et si on étudie la tradition des monothéistes, ils n'ont fait que la guerre entre eux. Toujours la guerre. Il y a 3000 ans de guerre entre les monothéismes. Et ils ont détruit l'espace extraordinaire créé par Héraclite, par Parménide, par Platon, par Socrate, par Aristote, par les grands poètes. Ils ont détruit ce grand monde. Ils n'ont rien créé. Même Spinoza, qui était un très grand philosophe, a été rejeté par le judaïsme. Aussi, Averroès a été rejeté par l'islam. Donc, le monothéisme n'a rien fait que la guerre et que les gens s'entretuent entre eux. Et n'oublions pas l'Église et les inquisitions. Tout ça nous oblige même de repenser le monothéisme. Et malheureusement, il y a un peu, on commence. Et à ce sujet, il faut saluer Michel Onfray pour ce qu'il écrit. Il a été très bien sur ça.
Et justement, tout à l'heure, vous parliez de mysticisme. Justement, ça m'intéresse parce qu'on a l'impression dans vos poésies que le poète à la fois se découvre et en même temps il disparaît. Et donc il serait, comme vous le dites dans le chant de Millard le Damasquène, dans la section Hiram aux colonnes, le poème qui s'appelle Les deux cadavres. J'ai enterré dans tes entrailles serviles, dans ta tête, tes yeux, tes mains, un minaret. J'ai enterré deux cadavres, la terre et le ciel. Ô tribu, giron des cigales, ô moulin à vent. À travers cette image, finalement, je me demandais où était la place du poète dans le monde, si pour vous, il n'était pas qu'une petite poussière.
Non. Même cet être qui bouleverse le monde, qui change le monde, n'est lui-même qu'une poussière. C'est ça. C'est ça le problème. Voilà. Mais les religions étaient une réponse à ce problème, une réponse vide du sens humain, une réponse comme ça, arbitraire. Donc, le problème de l'être humain, le problème de la vie, de l'existence, du devenir, de l'inconnu, reste là toujours. Il n'a pas de réponse à ces questions. Et heureusement, heureusement qu'il n'a pas de réponse, parce que la réponse tue, et limite et tue le monde. Au contraire, le questionnement ouvre à l'infini le monde. Donc, et c'est pourquoi, si la philosophie et les sciences humaines et la science elle-même arrivent à un degré que où il n'y a pas de réponse, ils n'ont rien, ces sciences, elles n'ont rien, plus rien à dire, la poésie, elle, peut dire quelque chose toujours, peut changer la manière de questionner le monde et dire autre chose. C'est pourquoi, s'il y a vraiment une connaissance profonde et réelle, c'est l'art en général qui pourrait ouvrir de nouveaux horizons et de revoir et renouveler toujours le monde.
Devant l'île et rose, le parfum, l'écrit. L'amoureuse a pénétré le jardin de sa demeure, à Jérusalem, où réside son bien-aimé. Toutes les fleurs se sont transformées en filets, assiégeant ses pas. Elle rit et dit « Dois-je donc de nouveau coudre un autre habit pour chaque fleur ?» Hier, quand je les ai rencontrées, la nuit m'a susurré à l'oreille. Le parfum est l'enfant de la rose, mais il naît jeune.
Tension, assassinat, arrestation, secours, pompier, victime. Condamnation, interdiction, rébellion, transgression, mérite. Camp, arrestation, prison, démolition, colonisation.
J'ai dit à mon fantôme, ose, pose tes mains sur les épaules de Jérusalem. Et j'ai dit à Jérusalem, pourquoi, moi qui viens à toi, je ne sais pas marcher que vers l'arrière. Je reprends. Pourquoi, moi qui viens à toi, je ne sais marcher que vers l'arrière.
Terrorisme, kidnapping, groupe inconnu, rigorisme, accusation, négation, nécrologie, législation, corruption, mécréant, fraude, campagne, violence, justice, base, danger, conflit, domination, issue, invasion, dévastation.
Le chemin est un fil d'araignée. Il est un univers non-voyant qui a englouti un univers aveugle. Les villes sont agonies et le temps une huppe de passage. Jusqu'à quand, ciel, continueras-tu à dormir entre les mains d'une terre rouge ?
Missiles, bandes, sectes, rituels, attaques, mines, commerce, guerre de religion, raids, scissions, apaisement, souveraineté, enchères, fragments de corps, cadavres, combats, alliés, ennemis, personnes armées, assassinats, tribus.
Un enfant aux allures de cercueil, porté par des mains invisibles, en une direction. Sans direction, dit à l'Éternel, ta troupe qui dirige le théâtre est pétrie d'un limon nommé assassinat, et la troupe de porter un tissu nommé air.
Pétrole, uranium, ultrasons, munitions, scandales, interrogatoires, contrebande, loi, droite, gauche, négociation, trahison, torture, migration.
La lune a une fente érotique creusée par le politique,
dit un astronome.
La terre contient des trous voulant ressembler à ceux du corps humain,
dit un naturaliste. Entre eux, le monde Judy devenait une écharpe rouge enveloppant l'arche. Les chevilles de l'air rythmaient leur danse sur la cadence d'une poussière atomique. Des fils et des circuits tissant des câbles électroniques pour des voyageurs ignorant le lieu, ignorés par le lieu. Entassement de livres sous lesquels succombent des preuves écrites par le calame du miracle. Je n'ai dit cela à aucun ange. Je l'ai dit à un météore muet qui s'est éteint aussitôt qu'il s'est allumé. quelqu'un s'est maculé, son extérieur a tourné à son intérieur. Quelqu'un a lu, alors il a été affecté par l'ignorance de toute chose. Il en est un troisième qui n'a de quatrième que son ombre. L'effroi lui-même est mélodie à la guitare du soleil.
Prophète d'Allah, quels sont les plus aptes à rentrer au paradis? Les prophètes? Qui d'autre? Les martyrs? Qui d'autre? Les muezzins de Jérusalem. Nul martyr n'est tombé en terre ou en mer sans qu'il n'écoutât l'appel à la prière chantée depuis le ciel par les muezzins de Jérusalem. Le rocher de Jérusalem sur un palmier, le palmier sur un fleuve des fleuves du paradis, sous le palmier Assia, l'épouse de Pharaon, Mariam, fille d'Imram, préparant l'accès des élus au paradis le jour du jugement dernier.
Qu'écrire, donc, et comment? Ce qui ne peut appartenir à la langue a-t-il un sens? Et pourquoi les tristesses de l'esprit sont-elles les tombes des désirs du corps? Nous n'écrivons vraiment une chose que si nous la voyons de telle façon qu'elle aussi semble nous voir. Une écriture sans abîme ne fait qu'abîmer.
Et justement, en même temps, votre poésie, on a l'impression qu'elle a aussi la vocation de faire disparaître toute forme de peur, la peur de soi, la peur de l'autre, la peur de son propre monde. Et comme vous avez bien insisté dessus déjà, il n'y a pas du tout d'harmonie, tout est discordant entre la poésie et la religion. Et justement, j'ai trouvé une phrase qui m'a beaucoup bouleversé dans Commencement du corps et fin de l'océan, où vous dites presque en reprenant la parole de Jésus, tu es l'abîme et sur toi je construis mon amour. Est-ce que c'est finalement une déclaration d'amour au lecteur, ce passage?
Il y a dans le mysticisme une idée concernant l'autre. Et cette idée, c'est la mienne concernant le lecteur. Le mysticisme disait que l'autre n'est pas seulement un élément pour dialoguer. L'autre, c'est une dimension constitutive du moi. Et le moi n'existe pas sans l'autre. Ils vont plus loin que Rimbaud lui-même en disant « je est un autre ». Et peut-être « je est un autre » a été dit dans un autre contexte. Peut-être c'est à revoir. Mais l'autre, donc, une dimension constitutive du moi. Et je crois que le lecteur, pour moi, est un autre créateur. C'est-à-dire, c'est l'autre face du poète, l'autre face du texte poétique. C'est pourquoi un texte, c'est son lecteur.
Et justement, vous parlez beaucoup de Rimbaud. Moi, j'aimerais vous parler de Baudelaire, parce qu'il me semble qu'on pourrait avoir quelque chose de semblable entre le narrateur de Baudelaire dans l'Albatros et votre poésie. Et donc, à ce titre, j'aimerais juste lire un petit passage du Al-Kitab 3. Vous écrivez « Il se peut que mon péché fut de n'éprouver aucune hostilité pour les ennemis de ma poésie. » Et donc voilà, pour moi, il y a quelque chose de semblable, ces ailes de géant qui empêchent l'albatros de marcher et qui boitent sur le plancher. Vous, il y a quelque chose, j'ai l'impression, de plus violent encore. Cet albatros, si c'est un albatros, il aurait presque les ailes brûlées et donc il pourrait limite... Ne plus voler, ne plus s'envoler. Et vous qui avez connu et qui connaissez l'exil de votre pays à cause de votre dissidence, est-ce que vous pourriez vous reconnaître dans cet animal poète? Et surtout, est-ce que vous pouvez vous défendre? Est-ce que vous en avez la capacité?
Sauf que je ne me considère pas un émigré, parce que l'être humain a comme définition, c'est un émigré. Il est émigré au sein même de sa tradition, au sein même de son pays. Et le créateur est essentiellement vit en migration. Migration entre ce qu'il rêve et ce qu'il peut réaliser de ses rêves. Donc, je ne me sens pas exilé comme qu'on parle. Exilé, c'est devenu banal, c'est devenu politique, c'est devenu n'importe quoi. Donc, je suis en dehors de tout ça. J'étais exilé dans mon pays et je suis exilé dans le monde. Et je crois que chaque créateur, dans tous les domaines, a le même sentiment.
Et en même temps, dans Jérusalem, il y a un passage que j'aimerais lire parce qu'il m'a aussi beaucoup bouleversé. Page 63. Je vais vous lire, après je vais vous dire ce que j'en pense pour avoir votre sentiment sur ce passage. Donc c'est la section qui s'appelle un chant pour préparer l'épilogue. Donc vous écrivez: j'ai beaucoup de cheveux blancs sur la tête, mais dans les entrailles je n'ai que les poils follets de l'enfance. Prends ton alchimie, poète, cultive-la, domine-la, apprends-lui comment mêler nos corps à nos rêves et comment le temps doit être digne d'appartenir à notre jour et à notre nuit, et comment les minutes hennissent dans nos veines telles des chevaux débridés. À ton nom je me dépouille de moi-même pour être moi-même, et à ton nom je serai la joie et la tristesse en un seul élan, et je fermerai mes lèvres sur tes secrets. Et moi, quand je lis ce passage, j'ai l'impression que vous annoncez presque un renoncement, que vous passez le flambeau. Est-ce que je me trompe?
C'est intéressant que vous dites. Je n'ai pas senti moi-même, je ne sens pas ça. Mais c'est intéressant de vous écouter. Je vais réfléchir. Mais peut-être j'ai dit ça à nom de quelqu'un, quelque chose comme ça, dans un sens différent. Je crois.
Je
ne renonce pas.
Il y a cette question de la transmission aussi.
Peut-être. Vous savez, j'ai oublié. Il faut que je relise pour mieux vous répondre.
Et quand on lit votre poésie, au fond aussi, on ne peut s'empêcher, vu la tradition aussi que vous reprenez d'Al-Mutanabbi et tant d'autres aussi, parce que dans votre œuvre, je ne connais pas tout, mais je crois que vous reprenez énormément de la tradition poétique sur plusieurs siècles, et vous pourriez nous en parler pendant des heures, je pense. Mais au fond, on a quand même l'impression que la poésie n'invente rien et qu'elle ne fait pas arriver les choses, en tout cas, et qu'elle les fait survivre en réalité toujours, et à travers justement cette parole qui serait toujours chancelante et fragmentée. Et moi, je vais poser une question très simple: est-ce que ça, pour vous, c'est de l'impuissance, non, ou est-ce que c'est de l'amour?
Écoutez, c'est de l'amour. Écoutez, on a actuellement le premier poème connu et beau, c'était un poème d'amour sumérien, c'est-à-dire 4-5 000 ans. Et durant ces 5 000 ans, toujours il y a eu de la poésie. Et on sent que la poésie, moi je sens, malgré la beauté et l'extrême beauté même et profondeur aussi dans la poésie du monde entier, on sent qu'on n'a rien dit. Et heureusement, figurez-vous que un poète comme un prophète dit: voilà, j'ai dit tout et c'est définitif et il n'y a plus rien à dire et il n'y a plus rien de vérité, et ce qu'on a connu, ce sont les vérités ultimes, comme dit le monothéisme. Alors, ça serait le monde, ça serait une prison. Donc, heureusement que le mot ne peut jamais cerner une chose. La chose est plus riche, est plus large, est plus obscur. Donc, on est toujours dans l'inconnu et on vit toujours dans l'inconnu. Et c'est pourquoi on sent on a tout dit, mais on n'a rien dit aussi, en même temps. Et c'est pas de l'impuissance, c'est de l'essence même de la poésie et de la création.
J'ai dit à l'amour, je suis prêt à faire ce que tu veux. Appeler mon présent à venir qui renie le temps de la mémoire. Je me suis levée avec l'aube. Nous avons marché et demandé, comment sera le jour ? J'ai pénétré dans la couche de la terre. J'ai écouté et contemplé de l'intérieur le visage de la nature, le visage de la ville, la lumière, le soleil, la nuit, les sommets, les prairies, les graines, les moissons, les sources et les herbes, les mots qui se maquillent. Tout cela sort de la matrice de la mémoire.
Mon temps est poussière, mon amour son rocher. Comment savoir si notre hier l'a sculpté, si demain est mon désir le ciseleron ? Suis-je blessure portée sur un plateau de vision ou ne suis-je personne ? Mon sang, mon contradicteur me construit et je le détruis comme si j'étais l'amant de ma passion, comme si je désirais mon corps. Mon corps d'amour est-il mort dans l'enfance ? Poème, tu as promis, ton corps renaîtra. J'ai attendu, j'ai cru. Pourquoi n'as-tu rien fait pour le retrouver ? Y a-t-il dans le poème et l'amour ce qui étrangle l'espace, tue l'espoir ? Pourquoi le ciel ne meurt-il donc jamais ?
Comment avions-nous vécu ? Quel lieu nous avait réunis ? Étions-nous deux images ? Je me soumettais à la forme, à l'aspect extérieur des mots, des gestes et du corps. Je disais, la nature est apparence, les nuages errance entre deux figures. Et l'espace accueille toutes les formes. Je dis, je l'ai imaginé rose, alors que le bourgeon est mort sous les feuilles. Lisez, comment le feu a passé sur son visage et s'est lui-même brûlé.
Et on a aussi réellement l'impression, on en parle depuis le début, mais que, en tout cas dans les Al-Kitab, qu'il y a quelque chose qui doit naître de cette confrontation entre les deux voies et entre l'histoire aussi. L'histoire de l'islam que vous racontez, que ce soit l'histoire du Coran, si j'ai bien compris, ou même l'histoire des guerres, enfin tout ce que vous avez évoqué, et réécrire finalement un nouveau livre, puisque Al-Kitab, si j'ai bien compris, c'est aussi le nom du Coran en arabe, réécrire un nouveau livre qui recommencerait notre amour pour le monde et pour les hommes. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, vous dites d'Al-Mutanabi dans Al-Kitab 3, il erre dans son tourment et s'élève, organisé son déluge, tel est son dessein. Et moi je voulais savoir, après le déluge qu'a déjà créé cet ancêtre, finalement sans forcément réussir à supplanter la religion, est-ce que c'est le vôtre qui peut venir pour aider à régénérer à travers le flux de la poésie?
Je n'ai aucun message et je n'ai pas aidé. Il faut que l'être humain s'aide lui-même et donc je ne prêche pas, au contraire. Je signe les abîmes à l'infini. Pour mieux voir notre condition humaine et pour mieux voir cet être humain qui s'appelle l'homme et qui est extra, on n'arrive pas à le contourner. C'est pourquoi on parle d'autre chose que le... Donc, je suis toujours... Je n'ai rien à dire, sauf qu'il faut revoir, il faut repenser, il faut aller plus loin toujours dans le monde, sans aucun message. L'être humain n'a pas besoin d'un message, il a besoin d'une compréhension, d'une manière nouvelle de voir et de revoir le monde.
Et du coup, vous l'avez déjà dit, mais effectivement, le poète n'est plus prophète, il ne se possède plus cette lumière divine, il n'est peut-être même plus voyant, comme pouvait le dire Rimbaud. Et il y a une phrase aussi dans Al-Kitab 1, au tout début du recueil, qui m'a beaucoup parlé et qui éclaire là, tout ce que vous êtes en train de nous dire, qui nous dit « La lumière ne livre pas ses secrets, dans ses rayons fond son secret ». Alors du coup, je me demandais si le poète ne prend pas source à la lumière, à quoi est-ce qu'il prend sa source, en fait ?
Non, parce que la lumière n'est pas une chose extérieure à la poésie. La poésie elle-même, créer, c'est éclairer, le fait de créer. Donc, il n'y a pas quelque chose en dehors de la poésie qui s'appelle lumière. La lumière, c'est la poésie, c'est la création elle-même.
Et j'aimerais qu'on évoque maintenant quelque chose de davantage politique dans votre poésie. Alors, face à une parole poétique vraie, qui, si on reprend la formule de Rimbaud dans l'alchimie du verbe, fixerait des vertiges, on a vraiment l'impression aujourd'hui que la parole politique, la parole des politiques et des politiciens, ou plutôt leur non-parole, elle condamne des horizons véritablement. Et c'est quelque chose qu'on perçoit dans... Justement, vous parlez tout à l'heure de l'Orient qui a été écrit par les Occidents, et l'idée qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas l'Orient. Et j'aimerais lire un petit passage pour que vous puissiez nous en dire plus sur ce point-là, donc qui se situe dans Al-Kitab 3. Et à la section, dans une section une grand 4 qui s'appelle Un Orient sans Orient. Et donc vous écrivez: hier, aujourd'hui, demain, nous sommes réunis autour de ton nom, quelques poètes rebelles proscrits, il y a quelques poètes rebelles proscrits dans l'air autour de nous, que des casques et des lières adamiques suspendues. Les routes sont des pas trop habitués aux chaînes et le temps deux jambes paralytiques. Cependant, nous te regardons, ta poésie est guide et chemin, et chaque poème est un commencement. Et du coup, je me demandais si ce poème pouvait, même s'il est proscrit dans la pensée, est-ce qu'il y a quand même espoir qui porte les germes d'un certain avenir pour l'homme et pour l'humanité.
L'homme lui-même, c'est le but, c'est l'avenir. Tant que l'homme est là, l'avenir est là. Et il n'y a pas un avenir, une chose qu'on va vers lui toucher comme ça, comme on va vers un arbre, ou bien vers une montagne, ou bien vers une plage, ou chose comme ça. Donc, l'espoir, l'avenir, l'infini, c'est l'être humain. Tout est là. Tant que l'être humain est là, l'avenir est là. Voilà.
Et du coup, il y a vraiment cette idée que la poétique s'oppose à la politique du monde d'aujourd'hui. En tout cas, en tant que poète, vous opposez, en tout cas dans
voilà,
dans...
sauf que si la politique est fondée sur une grande culture, une grande vision, ça, dans ce sens, la politique fait partie de la poétique. Mais la politique politicienne, la politique qui règne actuellement sur le monde, c'est pas de la politique, c'est de la banalité quotidienne pour transformer le monde en marché, pour les armes, pour etc. Actuellement, le monde est dirigé par une politique de guerre, une politique d'armes, d'armées, de marché, etc. Et c'est essentiellement anti-poétique. Mais c'est pourquoi il n'y aura pas une grande politique si elle ne serait pas fondée sur une grande culture. Et je crois que la politique occidentale a régressé, s'est arabisé presque. À cause de cela, il n'y a plus de culture et il n'y a plus d'éthique dans le monde. C'est pourquoi nos crises viennent de ça. Et le monde est malade. Si la maladie, la politique actuelle dans le monde n'est qu'une maladie de l'être humain. Et sur ce plan, j'espère que l'être humain dépassera et vaincra cette maladie.
Et justement, vous avez parlé de guerre, et j'aimerais évoquer avec vous ce qui se passe actuellement en Syrie, qui est votre pays natal, et notamment, par exemple, Alep. Quel regard vous portez
Voilà, c'est l'incarnation de ce que je viens de dire. La politique européenne, américaine ou européenne, disons, a permis de détruire les œuvres de l'humanité extraordinaire. Et ils n'ont rien dit sur ça. Et ils continuent de soutenir ceux qui ont inventé ces sauvages qui ont détruit tout. Voilà, c'est ça. C'est un exemple flagrant. Et donc, détruire le pays de l'alphabet, détruire le pays de la de Sumer, de Babylone, de l'alphabet de la Phénicie, de Palmyre, qui est une œuvre occidentale aussi. Palmyre, il y a beaucoup. C'était commun. Permettre de détruire ça, ça prouve que la politique américano-européenne n'est plus... C'est anti-humain, disons, inhumain. C'est inhumain ce qu'on a permis de faire dans les pays arabes. Et on ne peut pas identifier un régime et un pays. On est contre un régime, mais devenir contre le pays lui-même, son histoire, ses œuvres d'art, c'est ça, c'est anti-humain. Et anti-politique en même temps. Et anti-culture. Et ça, c'est ça un aspect de la décadence de la politique occidentale.
Et pour terminer, j'aimerais beaucoup, si vous le voulez bien, que vous nous lisiez avec votre voix un poème de votre choix.
Okay. Je dirais un poème qui est une sorte de dialogue à l'intérieur de chaque homme entre son enfance et ce qu'il est devenu. Et qui s'appelle « Commencement de la parole ». « Zalika tiflu lazi kuntu atani marratan wajhan ghariban » لم يقل شيئا مشينا وكلانا يرمخ الآخر في صمت خطانا نهر يجري غريبا جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول أيها الطفل الذي كنت تقدم ما الذي يجمعنا الآن وماذا سنقول.
Merci beaucoup Adonis d'avoir répondu à nos questions, et donc je vous invite à lire, enfin ceux qui ne vous connaissent pas, à vous lire évidemment. Merci beaucoup.
Merci à vous, lecteurs, à vos amis tous.
Nous proposons la traduction du poème que vient de lire Adonis, ou plutôt qu'il vient de proférer. De la parole. Cet enfant que je fus s'en vint à moi, une fois inconnu son visage. Il ne dit mot. Nous cheminâmes, chacun fixant l'autre en silence, nos pas, rivière s'en allant. Inconnu. Des racines nous ont réunis. Au nom de ces feuilles qui voyagent dans le vent, nous nous sommes séparés. Forêt écrite par la terre, comptée par les saisons. Toi,
l'enfant que je fus, approche. Quoi désormais pour nous unir? Et que nous dire?